Gloire au Seigneur. Et le meilleur moment pour nous, le moment où nous allons le mieux, c'est quand nous pouvons nous plonger dans la parole de Dieu, quand nous pouvons écouter la parole de Dieu. Ce sont les paroles les plus bienfaisantes pour nous. Nous pouvons nous parler les uns aux autres, nous pouvons avoir des discussions, nous pouvons écouter, mais ce dont nous avons vraiment besoin, ce dont notre âme a vraiment besoin, c'est de la parole de Dieu. Alors nous nous réjouissons d'être dans ces instants et de pouvoir ensemble écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Ce matin, nous allons lire dans une épître pastorale. Il y en a trois, 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Et aujourd'hui, nous allons lire dans 2 Timothée, la deuxième épître à Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Et là, nous allons lire les versets 16 à 19. 2 Timothée, chapitre 2, versets 16 à 19. Voici ce qui est écrit. « Évite les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. La parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. C'est le cas d'Hyménée et de Philète. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Amen. » Ceux qui travaillent dans le bâtiment, et il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns parmi nous, je ne vais pas les citer parce qu'on les connaît de toute façon, ceux qui savent travailler avec leurs mains et ceux qui aiment bien travailler dans leur bâtiment savent bien, c'est quelque chose d'évident pour quelqu'un qui a l'habitude, qu'il faut faire attention lorsqu'on veut détruire un mur. Il faut faire attention, on ne peut pas détruire tous les murs qu'on veut dans une maison. Il suffit pas de prendre sa massue et dire « bon, ce mur-là, ouais, je vais l'abattre et puis on verra bien ce qui va se passer ». Pour détruire un mur, il faut s'assurer que c'est une simple cloison et qu'on peut se permettre de taper dedans, c'est juste une séparation entre des pièces. Il faut s'assurer qu'on n'est pas en train de détruire un mur porteur. Si on détruit un mur porteur, eh bien on déstabilise la maison, on peut avoir des fissures et on peut même avoir un effondrement, carrément. Et nous le savons tous, et c'est des choses que nous savons, dans une maison, il y a des cloisons, il y a des murs porteurs. Et c'est bien qu'il y ait des murs porteurs, nous en avons besoin, ils sont essentiels. Il y a ce qui est essentiel dans la maison, et puis il y a ce qui est accessoire, ce que l'on peut détruire. Dans le texte que nous venons de lire, c'est en réalité l'apôtre Paul qui s'adresse à son fils Timothée, à son fils spirituel, dans un contexte particulier, parce que c'est un contexte où, en fait, l'Église d'Éphèse est perturbée par des faux enseignants, des faux docteurs qui enseignent des erreurs, et notamment Hyménée et Philète, dont il nous est dit que l'erreur qu'ils enseignent, c'est qu'ils affirment que la résurrection a déjà eu lieu. Et donc ils disent que voilà, parce que nous sommes spirituellement ressuscités et que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, eh bien la résurrection a déjà eu lieu, et donc nous ne devons pas en attendre une qui arrive. Ce qui est évidemment une erreur, puisque nous savons bien que le Seigneur reviendra, et que lorsqu'il reviendra, au son de la trompette, les vivants et les morts ressusciteront, et ce sera le temps du jugement. Et donc c'est une erreur, et cette erreur-là qu'ils sont en train d'enseigner perturbe l'Église. Et il y en a plusieurs qui se détournent de la foi à cause de cette erreur qu'ils enseignent, et donc l'apôtre Paul vient pour parler à son fils, pour l'encourager, et pour le mettre en garde, mais à côté de cette mise en garde qu'il lui met, qu'il lui donne par rapport à ces faux enseignants, qui faisaient aussi partie de la gnose, on a déjà parlé de ce qu'était la gnose, on ne va pas en reparler aujourd'hui, et l'apôtre Paul vient l'encourager en lui disant qu'à côté de tous ces faux enseignements qu'il y a, à côté de tout ce remue-ménage qu'il y a dans l'Église, à côté de tous ces gens qui se détournent de la foi, de l'Église qui est perturbée, l'Église qui est secouée, l'apôtre Paul, dans le verset qu'on vient de lire, vient l'encourager en lui disant « Mais malgré tout ça, le fondement posé par Dieu demeure. Le fondement posé par Dieu demeure, même s'il y a des gens qui enseignent n'importe quoi, même s'il y a des fausses doctrines qui naviguent dans l'Église et qui font beaucoup de mal, le fondement posé par Dieu demeure. Ce fondement posé par Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la pierre angulaire de l'Église et c'est l'enseignement des apôtres. L'enseignement, le témoignage des apôtres, la juste doctrine de l'Évangile, cet enseignement juste qui a été enseigné, transmis par les apôtres, ce fondement-là, il demeure. Et l'apôtre ne se contente pas de lui dire que ce fondement-là demeure, il lui dit que ce fondement-là a une inscription, un sceau. Et un sceau, c'est ce qui permet d'affirmer l'authenticité. Quand on met un sceau sur un document, c'est pour dire c'est un vrai document, c'est bien un tel qui l'a signé, c'est un beau document, vous pouvez en tenir compte. Il lui dit, le fondement posé par Dieu demeure et là, il y a une inscription, il y a un sceau sur ce fondement-là. C'est un petit peu comme dans les grands bâtiments, il y a parfois au-dessus une grande affirmation. Par exemple, en France, liberté, égalité, fraternité. Dans certaines maisons, à Jumet, il y a beaucoup ça, des maisons sur lesquelles l'année de construction est encore écrite au-dessus. En tout cas, il y a ces inscriptions qui disent quelque chose, qui sont tellement importantes qu'on les écrit pour que tout le monde le voit. Et il nous dit, il y a deux inscriptions sur ce fondement et nous avons tout intérêt à les connaître, à les découvrir, à y entrer. Il y a deux inscriptions. La première, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et la deuxième, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du mal. Première inscription, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Quelle affirmation qui nous remplit d'assurance, de certitude et de paix de savoir que Dieu connaît ceux qui sont à lui. À partir du moment où nous avons donné notre cœur à Jésus, la parole nous dit que par la foi, cette parole nous a rendus capables, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu nous connaît, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Nous avons été scellés pour le salut, et le salut ce n'est pas tellement le fait que nous connaissions Dieu, mais c'est bien plus le fait que nous sommes connus de Dieu, nous sommes connus de Dieu. Il nous connaît, il connaît chacun de ses enfants, chacune des personnes qui a donné sa vie, qui s'est approchée de lui, il nous connaît. Quelle assurance, quelle certitude. Il nous connaît parce que nous l'aimons. 1 Corinthiens 8, verset 3 nous dit que « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. » Celui qui aime Dieu, celui qui a un cœur pour Dieu, celui qui est attaché à Dieu, Dieu le connaît. Celui qui aime Dieu est connu de Dieu. Jésus dit « Je connais mes brebis, je suis le bon berger, je connais mes brebis. » Dieu nous connaît. Et il ne nous connaît pas seulement de façon générale, comme un troupeau, il nous connaît aussi de façon personnelle, il nous connaît par notre nom. Dieu a dit ça à Moïse, je te connais par ton nom, je te connais par ton nom. Il ne connaît pas seulement l'église de Jumet, les gens qui sont à Jumet, il nous connaît chacun, avec qui nous sommes, ce que nous sommes, quelle est notre vie. Il nous connaît, il connaît ce qui lui appartient, il nous connaît dans le détail, il nous connaît comme un père connaît ses enfants. Il nous connaît même avant même que nous soyons, puisque psaume 139 nous dit que avant même que je ne sois, déjà, tu me connaissais et tous mes jours étaient inscrits dans ton livre. Il nous connaît. Avant même que nous soyons chaque détail de notre vie, il nous connaît. Nous sommes dans sa main et il nous connaît. Rappelez-vous même que Nathanaël a été étonné que lorsque Jésus s'est approché de lui, il lui a dit « Ah, Nathanaël !» Il lui dit « Ben, comment me connais-tu » Et Jésus lui dit « Alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu, je te connaissais. » Dieu nous connaît, Dieu connaît chaque personne qui lui appartient, et il nous dit que même les cheveux de notre tête sont comptés. Alors évidemment, ce n'est pas une inscription, ce n'est pas une parole à prendre au pied de la lettre, mais ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne que nous sommes tellement précieux pour lui, nous avons tellement d'importance pour lui, que même les cheveux de notre tête sont comptés. C'est montrer que Dieu est le juge suprême, parce que dans ce texte-là, en réalité, il dit ça à ses disciples alors qu'il parle de la persécution de ceux qui veulent du mal à nos vies. Il dit, vous inquiétez pas, même vos cheveux sont comptés. Donc Dieu est le juge suprême, c'est lui qui tient toutes choses entre ses mains et nous avons une grande valeur à ses yeux. Nous sommes tellement importants pour lui qu'il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la terre et qu'il nous assure sur la tête, pardon, et qu'il nous assure qu'aucun d'eux ne tombera. C'est l'assurance que pour ta vie, pour ton existence, Dieu restera maître des circonstances. Il connaît les cheveux que tu as sur ta tête, il te connaît, tu es précieux pour lui, tellement important. C'est l'assurance qu'il nous protégera, ceux qui lui appartiennent. Il nous protégera. C'est l'assurance qu'il nous délivrera. C'est l'assurance qu'il nous fera tenir jusqu'au bout pour nous donner son salut. Ceux qui lui appartiennent, il nous fera tenir jusqu'au bout, afin que nous puissions obtenir le salut. Il nous connaît, il nous accompagne, il nous saisit. Vous connaissez peut-être ce chant qui dit, peut-être que vous ne le connaissez. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout. C'est ça. S'il a porté le poids de ce monde, il nous soutiendra jusqu'au bout. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Alors c'est une assurance, c'est une joie pour nous d'entendre ça, de dire que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Ça veut dire qu'on ne fait pas appel à ma mémoire, de me dire il faut que je me rappelle que j'appartiens à Dieu. On ne fait pas appel à un document que j'aurais inscrit dans ma table de chevet où il est écrit que j'appartiens à Dieu. Dieu me connaît. Ça nous donne une assurance, premièrement, face aux accusations du diable. Vous savez que le diable, sa fonction, c'est d'accuser les enfants de Dieu. Et vous vous rappelez que c'est lui qui a accusé Josué, le souverain sacrificateur, qui avait les habits sales. Il se tenait à la droite comme le procureur du roi pour accuser, même en Belgique, le procureur du roi, il accuse. Les accusations du diable. Et malgré ces accusations, dans le texte dont il est question, il est écrit que l'ange dit au sacrificateur qui a les vêtements sales, « Voici, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. » Des accusations du diable qui peuvent parfois nous faire tellement mal. Rappelez-vous aussi Job, où Dieu, où Satan a été l'accusé. « Oui, mais t'es vraiment sûr que c'est celui qui t'appartient ?» Et la Bible nous dit que cet accusateur des frères, l'accusateur des frères, c'est son nom, a été précipité. C'est une assurance que même face aux accusations du diable, même face à ce que le diable peut mettre en évidence comme péché dans notre vie, comme manquement dans notre vie, comme erreur dans notre vie, comme déstabilisation, quel que soit ce que nous sommes, quelles que soient les raisons qui font que le diable aurait quelque chose à dire sur ta vie. Nous avons tous des raisons, nous avons tous des choses, nous avons tous le vêtement sale quelque part, en un domaine ou en un autre, où le diable pourrait pointer et dire « Ah, terminé, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent ». Ces accusations du diable n'ont plus d'impact sur nous parce que nous lui appartenons, nous sommes à lui. C'est une affirmation qui nous rend fort face au jugement des autres. Parfois, ce n'est pas les accusations du diable, c'est le jugement des autres. Les autres peuvent remettre en question notre engagement, remettre en question notre conversion, remettre en question notre sincérité, remettre en question le fait que nous appartenons à Dieu. Hein, parce que l'homme regarde aux apparences, se dit « Oui, mais comme je vois, hein, comme il est, lui, je n'ai pas l'impression qu'il appartient à Dieu. Hein, il a des attitudes bizarres. Enfin, » On a parfois des paroles consciemment ou inconsciemment méchantes envers les autres. Où on doute, « Oui, mais je ne pense pas que Damien ne doit pas appartenir à Dieu, il n'en a pas la tête. » Je me déchaîne sur Damien maintenant, j'ai envie, voilà, c'est tout. C'est ton tour aujourd'hui. Face aux accusations des autres, au jugement des autres, tout ce que les hommes peuvent dire, la Bible nous dit que l'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Dieu connaît ce qui lui appartient. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, quelle que soit même la réputation que tu peux avoir dans les églises, peut-être qu'on sait bien dans toutes les églises de Charleroi que Damien est un casse-pied, que dès qu'il est là, il embête le monde. Peut-être qu'on le sait, mais c'est pas grave Damien, Dieu te connaît, Dieu sait que tu lui appartiens. Dieu connaît nos cœurs, assurance merveilleuse, quel que soit ce qu'on peut dire de moi, quelle que soit l'étiquette qu'on m'a mis, quel que soit ce qu'on sait de moi, quel que soit tout ce que dans ma vie on peut pointer en disant « Mais vous l'avez déjà vu, regardez, là, il vient de là, il a fait ça, il a fait ça. » Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. C'est une assurance qui nous rend fort face aux faiblesses de notre conscience, aux accusations de notre conscience. Parfois, c'est pas Satan, parfois, c'est pas les autres, c'est notre conscience. Notre conscience qui nous accuse par rapport à ce que nous avons fait. Hein, peut-être que ça vous est déjà arrivé de ne pas réussir à vous pardonner de choses que vous avez faites. C'est tellement mal ce que j'ai fait, je n'arrive pas à me pardonner, je n'arrive pas à me dire que voilà, c'est passé, qu'il faut aller à autre chose, que je n'y arrive pas. malgré ces accusations de notre conscience, ces reproches de notre conscience, hein, qui mettent en évidence tout ce que tu as raté dans ta vie, tout ce que tu as manqué, tout ce que tu n'aurais pas dû faire. Elle nous renforce face aux regrets du passé, qui peuvent parfois nous faire tellement de mal, nous n'arrivons pas à accueillir le pardon de Dieu. Dieu te pardonne, mais tu ne veux pas. Non, Seigneur, je ne suis pas digne de ton pardon. Désolé, quand je serai plus parfait, tu pourras me pardonner. Et pourtant, dès que nous demandons pardon sincèrement, il nous pardonne. Ces faiblesses de notre conscience peuvent parfois nous plonger dans une atmosphère tellement pesante. Il faut savoir que Luther, il a vécu ça. Alors c'était à cause des faux enseignements de l'Église catholique, mais ce qui a fait qu'il s'est battu pour la juste doctrine, c'est que sa conscience l'écrasait. Il a écrit des textes terribles où il explique comment sa conscience est écrasée par le fait que, par exemple, notamment, il était prêtre, il pouvait pas se marier, et pourtant il brûlait, il n'en pouvait plus. Sa conscience l'écrasait. Parfois, notre conscience peut nous faire tellement de mal. Et la Bible nous dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il peut arriver des fois où Dieu nous pardonne, mais notre cœur continue à nous condamner, parce qu'on s'en veut tellement de ce qu'on a fait, qu'on continue à se condamner soi-même. Mais si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. C'est une affirmation qui nous rend fort face à l'instabilité de nos sentiments, de nos émotions, de nos intuitions, de nos perceptions. Nous pouvons avoir nos sentiments, nos émotions, qui parfois sont vacillantes, et qui font que certains jours on se dit « mais est-ce que j'appartiens vraiment à Dieu, moi ?» C'est pas, ça, vous voyez, c'est parfois des moments d'angoisse, des moments de doute, des moments d'incertitude, où on ne sait plus trop, où on n'est pas bien. Vous savez, parfois, il suffit qu'on ait mal dormi pour ne pas être bien, hein. D'avoir mal digéré, d'être mal dans sa peau, ou il pleut, ou ça va pas à la maison, ou etc. On se sent pas bien, on n'a pas la forme. Et le fait qu'on n'a pas la forme, ça nous rend, on commence à douter, dire, mais finalement, est-ce que j'appartiens à Dieu? Est-ce que je suis vraiment sincère? Des temps d'angoisse, des temps de questionnement, on se questionne. La peur de l'avenir, l'incertitude, la crainte. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, même lorsque nos émotions sont vacillantes, même lorsque nous ne savons plus, même lorsque nous ne sommes pas sûrs, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, son amour, sa bonté, sa grâce, comme Benoît l'a dit, enfin, Monseigneur Benoît de Montigny-le-Thiel l'a dit, sa grâce nous localise. Où que tu sois, la grâce de Dieu te localise, la bonté de Dieu te localise. Elle te repère, elle t'accompagne, la grâce de Dieu. Quel que soit ce que tu peux penser de toi, ou ce que les autres disent, le Satan ou quoi que ce soit, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Nahum 1, verset 7 nous dit, « L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Dieu connaît ceux qui se confient en lui. Si tu te confies en lui, si tu lui fais confiance, si tu lui recommandes ton sort, ton avenir, ta vie, si tu attends de lui le secours, Dieu te connaît. Peut-être que tu es venu ce matin justement en ayant un sujet, en disant « mais Seigneur ». Le simple fait que ton cœur appelle le Seigneur, Dieu connaît ceux qui se confient en lui, ceux qui s'attendent à lui, ceux qui attendent son secours, il les connaît. Même si la réponse prend du temps, même si c'est pénible entre-temps, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. C'est une assurance que nous avons face au chaos des événements qui nous entourent. Quand nous voyons les événements autour de nous, regardez cette tuerie affreuse à Liège que nous avons vécue cette semaine. Quand ces événements arrivent autour de nous, ou dans notre vie, ou dans l'église, ou on ne sait plus quoi, on est dans le chaos, eh bien, malgré ces événements-là, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Monseigneur Jean-Pierre de Gosselies, lorsque nous étions partis au barbecue de l'année passée, nous avait introduit le barbecue en lisant Romains chapitre 8 et il nous avait cité, vous vous rappelez de ça? Non. Un jour je vais me tourmenter, hein, moi ici. Bon. Il nous avait cité toutes ces choses-là qui peuvent remettre en question notre amour pour Dieu. Il citait Romains chapitre 8, il disait, ça peut être la tribulation, ça peut être l'épreuve, ça peut être l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, la pauvreté, ça peut être le danger, ça peut être la violence. C'est toutes ces choses-là qui peuvent nous déstabiliser. Et l'apôtre nous dit, mais dans toutes ces choses-là que mon Seigneur a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai cette assurance-là que même si tous ces événements viennent sur moi, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, Dieu sait que je lui appartiens. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, c'est un appel à avoir un cœur tranquille. Un cœur tranquille, un cœur en paix. C'est un appel à l'humilité, de nous dire, je ne peux pas juger les autres, je ne peux pas considérer que je sais qui appartient à Dieu, je ne peux pas me permettre d'étiqueter les autres. C'est un appel à la prudence. Faisons attention à comment nous traitons ceux qui appartiennent à Dieu. Faisons attention à la manière avec laquelle nous nous adressons à ceux qui sont la prunelle de Dieu. Vous connaissez dans l'Ancien Testament, comment est-ce que Dieu traitait ceux qui s'opposaient à ses serviteurs? Il y a des gens qui se sont opposés à Moïse pendant des années. Dieu a traité très sévèrement les gens qui se sont attaqués à ses serviteurs. Faisons attention à comment nous traitons ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont la prunelle de son œil. Rappelez-vous comment Jésus a parlé de celui qui ferait tomber un de ses petits. Vous voyez cette gravité. Faisons attention à ce que nous faisons avec ceux qui appartiennent à Dieu. Jésus dit, mieux vaut-même qu'il s'attache une meule et qu'il aille se jeter dans la mer, celui qui ferait tomber quelqu'un qui appartient à Dieu. C'est un appel à la joie, c'est un appel à la tranquillité. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Première inscription, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Deuxième inscription, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du mal. Est-ce que vous comprenez l'aspect terrible de cette parole? Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du mal. Ça veut dire que la simple prononciation du nom du Seigneur, pour lui qui lui appartenons, doit nous pousser à nous éloigner du mal. Le nom du Seigneur est tellement saint, un Dieu tellement saint, que le simple fait de dire son nom, de l'appeler, de l'invoquer, doit nous pousser à nous éloigner du mal. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du mal. Quiconque dit qu'il appartient à Dieu doit s'éloigner du mal. Quiconque dit qu'il a part à la grâce de Dieu doit s'éloigner du mal. Prononcer le nom du Seigneur est égal à s'éloigner du mal et s'attacher au bien. S'éloigner du mal et s'attacher au bien. Le psaume 97, verset 10 nous dit « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal ». Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Romains 12, verset 9 nous dit, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. À l'école du dimanche, on apprend souvent aux enfants un chant, et il y a un chant qu'on leur apprend qui dit, dans la vie, il faut souvent savoir choisir, choisis le bien, détourne-toi du mal. Choisis le bien, détourne-toi du mal. Ne triche plus, mais dis la vérité. Ne triche plus, mais dis la vérité. Choisis le bien et détourne-toi du mal. Nous ne pouvons pas dire que nous appartenons à Dieu si nous aimons le mal. Et je crois que c'est un sujet de prière pour nous cette semaine peut-être. Seigneur, aide-moi à avoir le mal en horreur. Aide-moi à être dégoûté par le mal. Aide-moi à rejeter le mal. Vous voyez, cet équilibre parfait de la parole de Dieu dans ces deux affirmations. Il y en a une qui nous rassure, qui nous met dans la joie, qui nous met dans la paix, et l'autre qui nous met en garde. Attention, attention, il ne suffit pas de dire « j'appartiens à Dieu ». Attention, si tu dis que tu appartiens à Dieu, tu prononces le nom du Seigneur, tu l'invoques, éloigne-toi du mal. Et cet équilibre parfait. Dieu ne nous écrase pas. Il nous donne une assurance vivante, une joie d'être sauvé, de lui appartenir. Mais à côté de ça, il nous dit, hé là, attention, hein, tu prononces le nom du Seigneur, éloigne-toi du mal. Dans le psaume 16 et le psaume 101, le roi David nous donne ce sont des psaumes d'engagement dans lesquels il dit comment est-ce que lui, il veut craindre le Seigneur. Et ça nous enseigne, dans le psaume 16, au verset 2, il dit, Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ça, c'est. Il avait de l'affection parce qu'il appartenait à Dieu. Il avait de l'affection pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous devons avoir de l'affection pour les autres qui appartiennent à Dieu, ceux, nos frères, nos sœurs. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent. Au verset 4, dans le psaume 16, il dit « Je ne prendrai pas part au sacrifice rendu aux idoles. » Je ne prendrai pas part. Et il dit « Le nom de ces idoles ne passera même pas sur mes lèvres. » Voyez un petit peu, David, notre modèle, même le nom de ces idoles-là, même simplement le fait de dire le nom de Baal ou machin, je ne veux même pas le dire, parce que je veux que ma bouche soit consacrée à Dieu. Vous savez que Jacques a beaucoup parlé de ça lorsqu'il disait que de la même bouche sortent, de la même source sortent de l'eau pure et de l'eau impure. Je veux tellement que ma bouche soit consacrée à Dieu. Le nom de ces idoles ne passera même pas sur mes lèvres. Passera même pas sur mes lèvres. Quel engagement à s'attacher à Dieu. Dans le psaume 101, il dit au verset 2, « Je veux suivre le chemin des gens intègres. » Je veux suivre le chemin des gens intègres, des gens droits, des gens justes, des gens qui marchent dans la droiture. Nous avons besoin, nous, Église, d'être des modèles de droiture. Des modèles de droiture dans la gestion des finances, des modèles de droiture dans notre relation avec les autres, des modèles de droiture, des modèles de justice. Si nous, qui avons entendu la parole de Dieu, par grâce, nous ne montrons pas le chemin de la droiture, qui va le faire? C'est peut-être pas le monde qui va nous apprendre ça. C'est nous qui avons entendu cette parole-là. Et pourtant, il faut reconnaître que très souvent, c'est nous, comme nous l'avons dit avec Monseigneur Benoît de Montigny-le-Tilleul ce mardi, qui sommes une pierre d'achoppement. C'est nous qui sommes une pierre d'achoppement. Il dit au verset 2 toujours, « Je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison. » Ça veut dire qu'il n'est pas en train de dire « Je veux que tout le monde le sache, il ne veut pas le pharisien. » « Je veux, » il dit à Dieu, « Je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison. » Verset 3, il dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. C'est pas vous qui le dites, c'est lui. Mais c'est la parole de Dieu. Quel enseignement. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. C'est difficile aujourd'hui de ne rien mettre de mauvais devant ses yeux. Hein. C'est difficile. Hein. À moins que une fois que la télévision est allumée, ça y est, c'est parti. Et un, et deux, et trois, et quatre. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et le second dit, je ne mettrai rien de destructeur devant mes yeux. Je ne mettrai rien de destructeur devant mes yeux. Vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, et c'est pas ce que je dis, c'est pas dictatorial, mais à l'heure d'aujourd'hui, on s'est habitué à la violence. On regarde tous des films de tuerie, comme on dit. Mais parfois, on oublie que le meurtre est un péché. On regarde un film de guerre où les gens se tuent du début jusqu'à... J'ai pas dit que vous pouviez pas le faire, hein, mais c'est destructeur, c'est un péché, c'est grave. Je ne mettrai rien de destructeur devant mes yeux. Une sœur me parlait de tous ces nouveaux jeux, encore de tous ces nouveaux films. J'ai pas dit que vous pouviez pas regarder, hein, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon. Mais vous voyez tous les films de compétition, comment est-ce qu'on appelle ça, le nouveau logis, le logis du... Comment ? Oui, non, pas les téléréalités. Le truc là où... Les gîtes là, les comparaisons de gîtes. Hein ? Bienvenue chez nous et tout ça. Une sœur me disait que ça l'a même à la l'aise de regarder, parce qu'une fois qu'elle regarde, en fait, elle se rend compte que le jeu consiste à critiquer méchamment ce que les autres ont fait. C'est-à-dire que, oui, mais... Donc finalement, une fois qu'ils s'asseyent, c'est juste pour dire que l'autre, ouais... Et finalement, ça tourne à la dispute, on met les gens en compétition. Je ne mettrai rien de destructeur devant mes yeux. Verset 3, il dit, « Je haïrai les œuvres des infidèles. Elles n'auront aucune prise sur moi. » Elles n'auront aucune prise sur moi. Verset 5, « Celui qui calomnie son prochain, celui qui dit du mal de son prochain en secret, je le ferai taire. » C'est ça qu'il a dit David. Celui qui dit du mal de son prochain en secret, je le ferai taire. Terrible, hein? Je le ferai taire. Je ne laisserai pas continuer. Tu te tais. Je ne veux pas savoir ce que tu as à dire. Celui qui a les yeux hautains et le cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. Mes yeux se porteront sur les fidèles du pays. Je les ferai siéger auprès de moi. Verset 7, celui qui pratique la fraude n'habitera pas dans ma maison. Damien, tu n'habiteras pas chez moi alors. Celui qui profère des mensonges ne subsistera pas devant mes yeux. Celui qui profère des mensonges. Quel engagement à lutter contre le mal. Il était tellement conscient qu'il appartenait à Dieu qu'il pouvait se permettre de dire ce genre de choses. Ésaïe 33, versets 14 à 16, nous dit « Qui pourra se tenir devant le feu dévorant qui est notre Dieu ? Qui pourra se tenir ?» Et le texte répond « Celui qui marche dans la justice. Celui qui marche dans la justice. Celui qui parle selon la droiture, selon ce qui est juste. Celui qui refuse les gains acquis par extorsion. Celui qui refuse ce qui est acquis par la fraude. Celui qui refuse les pots de vin. Celui qui ferme ses oreilles aux paroles sanguinaires, aux paroles méchantes, aux paroles mauvaises, aux paroles destructrices. Celui qui ferme ses oreilles. Celui qui ferme ses yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là, il pourra se tenir devant la maison du Très-Haut. Psaume 34, verset 14 nous dit « Éloigne-toi du mal et fais le bien. » Recherche et poursuis la paix. Psaume 37, 27 nous dit « Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. » Proverbe 3, verset 7 nous dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Vous voyez cette inscription qui est sur le fondement de la maison de Dieu. Dieu connaît ce qui lui appartient, la joie pour nous, la joie, l'encouragement. Dieu te connaît, toi qui lui appartiens. Mais à côté de ça, cet avertissement, attention. Quiconque prononce le nom du Seigneur, quiconque appartient au Seigneur, qu'il s'éloigne du mal. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.